Paris, il est 12h. Le journal de midi. Francis Cassis.
Et c'est l'heure pour nous de vous présenter ce journal, madame, monsieur, bonjour, à la une de l'actualité. Après une grâce présidentielle, la personne libérée est libre de toute action, estime le juriste politologue Geoffroy Julien Kouaou. Agression d'une professeure d'EPS mardi dernier au lycée moderne de Koukoudi par un élève de terminale, le secrétaire général de la FESI condamne fermement l'acte. Au Sénégal, la Sénat Commission électorale nationale autonome dit avoir pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de l'élection présidentielle de dimanche prochain. Et puis vers la fin de ce journal, l'invité de la rédaction, le journaliste burkinabé, directeur de publication de Mine Actu Burkina, cité d'information minière du Burkina Faso et du monde. Pour lui, c'est incompréhensible que l'Afrique soit à un niveau d'endettement très élevé alors qu'elle dispose d'assez de ressources. Elie Kabouré répondra à cet effet aux questions de Jean-Mélène Bitti. Après avoir bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle, la personne est totalement libre, sauf si elle est sous contrôle judiciaire, nous dit le juriste politologue Geoffroy Julien Kouaou.
Non, lorsque une personne est libérée après une grâce présidentielle, s'il y a des mesures complémentaires qui ont été prises par le juge, par exemple... des mesures de sûreté, entre autres l'interdiction de comparaître dans un lieu, dans une ville, ou bien une confiscation pour mesures de sûreté. À partir du moment où ils sont libres, vous savez que la grâce est un pardon. On leur a accordé un pardon. Donc, si il n'a pas été pris de mesures de sûreté à leur encontre, par exemple les mesures de bonne conduite, si ça n'a pas été le cas, ils sont libres de s'exprimer. Seulement que figurent toujours dans le casier judiciaire les infractions et le quantum de la peine qui leur a été infligé. Voilà. Et sinon, ils sont extrêmement libres d'action, sauf décision contraire du juge.
Le juriste politologue Geoffroy Julien Kouaou. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat a adopté ce jeudi 21 mars à Yamoussoukro, à l'unanimité de ses membres, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance instituant des dispositions dérogatoires au code pénal, au code électoral par rapport aux élections locales et sénatoriales de 2023. Projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé.
Notre passage de ce jour au Sénat nous donne l'occasion de présenter le projet de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2023-672 du 2 juillet 2023 portant disposition dérogatoire au code électoral pour les élections locales de 2023. Cette volonté du président de la République s'est traduite par la prise de ce texte que les vénérables sénateurs viennent d'adopter à l'unanimité, signe pour nous de la bonne compréhension des dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de la gestion des questions électorales sur proposition de la Commission électorale indépendante. Ce projet de loi est passé à l'unanimité. Les vénérables sénateurs s'en sont bien imprégnés et ont compris l'importance du texte et ils ont choisi d'aller à l'essentiel. C'est une légitime fierté que nous ressentons d'être en parfaite symbiose avec les élus. Cela dénote de cette complicité et de cette bonne compréhension des actions que nous menons à la tête des départements ministériels dont nous avons la charge, mais aussi avec l'encadrement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci aux vénérables sénateurs et à l'ensemble des élus pour leur présence permanente aux côtés des citoyens qui rend notre pays très fier.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé au micro d'Emile Yao, notre correspondant à Yamoussoukro. à Bouaké, la confession religieuse fraternise. Un acquis que le premier adjoint au maire salue et encourage tout en exhortant à faire en sorte que la tolérance religieuse constitue le ciment de la coexistence pacifique. C'était à l'occasion d'une cérémonie de don de vivres que Paul Dacuo a initiée à leur profit. Le compte-rendu de Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Bouaké.
À Bouaké, les confessions religieuses ont joué un rôle essentiel à la sauvegarde de la paix et la cohésion sociale pendant les périodes de crise que la Côte d'Ivoire a connues. Cette dynamique, le premier adjoint au maire de Bouaké invite les populations à se l'approprier. C'était à la faveur de la cérémonie de remise de vivres qu'il a initiée au profit des communautés musulmanes et chrétiennes. Paul Dacuo.
Aider tous les chrétiens comme les musulmans à vraiment faire leur jeûne dans de bonnes conditions. Et de prier pour la Côte d'Ivoire, parce que cette stabilité qu'on a doit être confortée par nos prières.
Bouaké, selon le premier adjoint au maire, passe pour être un bon exemple en matière de tolérance religieuse.
Continuer à appliquer la cohésion et le dialogue interreligieux qu'a commencé Monseigneur Wana, paix à son âme, avec l'imam Badjawari, qui ont créé le forum des confessions religieuses. Et aujourd'hui, ça marche. Et Bouaké même est un modèle que les autres viennent prendre. Et nous, cadres, nous encourageons cela et nous encourageons nos populations à faire en sorte qu'il y ait la coexistion pacifique.
Les populations, à l'image de Fatoumata Touré, s'engagent à prôner la paix.
Que tu sois chrétien ou musulman, on est tous même père, même mère. On veut la paix.
Le premier adjoint au maire de Bouaké, Paul Dacuo, promet de soutenir les leaders religieux afin qu'ils continuent de sensibiliser sur la paix et la cohésion sociale. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Grève de 3 jours des professeurs du lycée moderne de Cocody depuis le mercredi 20 mars. En effet, le mardi 19, à la suite d'un incident entre des élèves jouant au football et une professeure d'EPS, une élève de terminale a donné un coup de poing au visage de l'enseignante. Ce que condamne avec énergie le syndicat des élèves et étudiants, la FICI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. On écoute son secrétaire général, Siekambou.
Nous, on a eu l'information depuis hier et on a dépêché une délégation sans que des enquêtes soient menées pour savoir ce qui s'est réellement passé. Que ce soit l'administration, le corps enseignant et si possible rencontrer l'élève qui a été cité. À la suite de cela, nous saurons véritablement ce qui s'est réellement passé. Dit que la FICI condamne fermement un tel acte venant d'un apprenant sur nos maîtres. Mais il faut faire une analyse un peu plus profonde. Il faut dire que dans nos écoles aujourd'hui, la promotion de l'excellence, certaines valeurs citoyennes ne sont plus de mise. C'est que les enfants se comportent ainsi. Et depuis le début de notre mandat, c'est ce que nous disons. C'est pourquoi on tente d'installer les sections dans les différentes écoles. Il faut véritablement que l'école soit une affaire de tous. Si un enfant est à mesure de s'en prendre à son aîné, à sa maman, à son papa, alors que l'enfant va à l'école, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Pour ce faire, il faut véritablement qu'il y ait les états généraux de l'école ivoirienne. Sinon, l'école va de mal en pire. Ça n'y va pas. Aujourd'hui, la question de la drogue dont nous parlons, les substances chimiques qu'on appelle Kadhafi au consort, la FICI a décidé de lutter contre ces phénomènes-là en milieu scolaire et autres. Mais il faudrait vraiment qu'on nous aide, c'est ça.
Le secrétaire général de la FICI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, Siekambou, joint par Paul Bénédicte Bolou. Autonomisation financière des femmes, un consortium et des ONG féminines en partenariat avec les directions genre et équité ainsi que du civisme ont lancé des activités de sensibilisation, d'information et de formation à grande échelle sur la nécessité de l'accélération du rythme du financement en faveur des femmes et des filles. C'était dans une table ronde lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Compte rendu, Jean-Claude Mabéa.
Cette table ronde communautaire est un événement mobilisateur pour l'autonomisation socio-économique des femmes, a expliqué Kadita Nour, la présidente de l'IDE africaine.
On parle de méthodes innovantes aujourd'hui. On ne peut pas innover en restant dans les mêmes mécanismes et en produisant les mêmes choses. Parce qu'on s'est rendu compte que l'accès au financement bancaire, c'est quelque chose de compliqué pour les femmes. On va leur demander des conditions qu'elles ne peuvent pas remplir forcément. Donc pour nous, avant d'arriver au financement bancaire, il faut commencer quelque part. Et c'est quelque part là, ce sont les associations villageoises d'épargne et de crédit.
Ce fut donc l'occasion pour des institutions bancaires et des microfinances de présenter les opportunités de financement qui s'offrent aux femmes commerçantes et entrepreneurs. Sabine Kadio, chef de projet à la coordination des promoteurs des groupes de la région des Lagunes.
Depuis 2007, nous avons créé notre coordination des promoteurs de groupes. C'est un outil qui aide les femmes à sortir de leur précarité. Nous luttons pour l'autonomisation économique des femmes.
Et Corinne Ormond, directrice de l'antenne nationale de la Bourse de Côte d'Ivoire, BRVM.
Bah, le message que je laisse aux femmes, c'est d'abord qu'elles osent se diriger vers tous ces outils-là qui leur ont été présentés. Des fois, les femmes, elles ont peur, elles sont réticentes, elles ne sont pas sûres d'elles, mais il faut qu'elles aillent au-delà de ça. Il y a tellement d'outils qui ont été mis en place pour les aider à atteindre cette autonomie financière-là.
À noter que l'objectif de cette table ronde est d'informer et d'outiller les femmes sur les différents moyens, canaux et opportunités de financement de leurs projets afin de favoriser leur autonomisation financière.
Normalisation et certification des entreprises privées en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Normalisation en abrégé Codinorme. Leur plateforme les encourage à faire certifier leurs produits, nous apprend Mata Touré.
Codinorme est la structure concessionnaire des activités de normalisation et de certification en Côte d'Ivoire. Cette rencontre se tenait une fois encore pour encourager les entreprises ivoiriennes à intégrer les normes dans leur système de production et à faire certifier leurs produits. Constant Boka en est le directeur.
Tout ce qui est nécessaire pour que les produits soient certifiés en Côte d'Ivoire, peut-être même sur une décennie, il faut qu'on le fasse au regard des enjeux de la ZELCAF. Derrière une certification des produits, vous avez toute la chaîne de valeur qui va s'accroître. On aura besoin d'expertise. Les laboratoires seront sollicités. Derrière, c'est des milliers d'emplois que vous créez.
L'État a rendu obligatoire la certification de 15 familles de produits de grande consommation, dont l'alimentaire, le cosmétique, les appareils électrodomestiques et les matériaux de bâtiment, afin d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs. Les produits non confirmés Codinorme sont interdits sur les marchés. Les entreprises présentes ont fait des recommandations à l'image de M. Soro qui est dans la cimenterie.
Il est important que la normalisation ne soit plus seulement une enclave de sachants. La normalisation doit pouvoir se diffuser parce qu'une norme n'a de valeur que si celui à qui elle est destinée en aperçoit l'efficacité. Dans chacun de ces domaines, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Il est bon qu'on assure une plus large diffusion de tout ce qui existe et de tout ce que Codinorme fait pour certifier les produits.
Les normes assurent la qualité des produits mis sur le marché et participent à la protection. Elles assurent également la compétitivité des entreprises et la diffusion de technologies innovantes et durables.
Midi 12 à Abidjan et 14h12 à Jérusalem. Conflit Israël-Hamas. Les États-Unis soumettent au vote ce vendredi une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza ainsi que la libération inconditionnelle des otages. Entre-temps, les dirigeants de l'Union européenne réunis à Bruxelles hier ont unanimement appelé à une pause humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu durable à Gaza et à la libération de tous les otages israéliens, rapporte l'AFP. Élection présidentielle au Sénégal le dimanche 24 mars. La CENA, Commission électorale nationale autonome, a su être prête pour un scrutin crédible. Le point avec notre correspondant particulier à Dakar, Abdourahmane Diallo.
Les Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche 24 mars 2024 pour élire leur cinquième président. Dans un souci de garantir la transparence et l'équité du processus électoral, la CENA, la Commission électorale nationale autonome, affirme que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de la présidentielle. Selon la Direction générale des élections, le matériel électoral nécessaire a été acheminé dans tout le pays, témoignant de l'engagement des autorités à assurer un vote transparent et démocratique. Alors que les candidats multiplient les déclarations et les apparitions publiques pour convaincre les électeurs, l'attention se tourne désormais vers le jour J où les Sénégalais seront appelés à exprimer leur choix dans les urnes. Abdourahmane Diallo, Dakar, pour la Radio de la Paix.
Place à présent à notre invité de la rédaction, le journaliste burkinabé et directeur de publication de Mine Actu Burkina, site web d'information minière du Burkina Faso et du monde. Il appelle les journalistes africains à être regardants sur la gestion de leurs dirigeants, vu les lourdes dettes qui frappent leur pays. Elie Kabore répond à cet effet aux questions de Jean-Mylène Bidi.
Elie Kabore, bonjour. Pourquoi les journalistes africains doivent investiguer sur la question de la dette contractée par les différents pays africains ?
L'argument qui est toujours avancé pour contracter les dettes, c'est pour financer le développement. Mais il se trouve que malgré le niveau d'endettement de l'Afrique, qui est très élevé, la pauvreté aussi est très élevé dans tous les pays. Et on a remarqué que les pays les plus riches en ressources naturelles, en ressources agricoles, les pays qui vivent la pêche, les pays qui ont des opportunités d'élevage, tous ces pays ne maximisent pas sur ces ressources-là pour financer leur propre développement, mais préfèrent s'endetter. Et quand on prend par exemple dans le domaine commercial, des pays excellent dans l'octroi d'avantages fiscaux à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Et il y a des détournements de financement et on arrive souvent à avoir des infrastructures sur papier, mais qui ne sont pas réalisées sur le terrain. On doit encore s'endetter. Donc l'Afrique se lance dans un cycle infernal d'endettement et de remboursement de la dette qui ne favorise pas son développement. Le journaliste, en tant qu'acteur clé dans la dénonciation et dont le travail impacte sur la prise de décision et qui souvent apporte des réformes institutionnelles et des réformes structurelles, se doit aussi de s'intéresser sur la question, investiguer pour non seulement savoir quel est le niveau de la dette, auprès de qui on contracte, est-ce que la dette elle est utile, et surtout mettre un accent sur l'utilisation de la dette. Est-ce que cette dette-là apporte quelque chose de plus à la vie des populations ou bien elle contribue plus à asservir ces populations-là? Donc les journalistes ont un très grand rôle à jouer sur cette question.
Alors on sait que les entreprises sont puissantes face à ces multinationales. Quels sont les rudiments que les journalistes doivent avoir pour pouvoir mieux mener ces investigations-là, pour mieux informer les populations et aussi les décideurs?
Je confirme effectivement que les multinationales, avec des montages financiers très complexes, arrivent à détourner notre attention et se faire des gros bénéfices. Elles utilisent plusieurs techniques, la fraude, l'évasion fiscale, les questions de surfacturation, de sous-facturation à l'importation et à l'exportation, etc. Mais au niveau des journalistes, le premier défi, c'est la question de renforcement des capacités. Un journaliste n'est pas bien formé sur ces techniques, on peut ne pas voir comme un mal qui passe. Le second aspect, c'est de relever la question de l'accès à l'information. Ces entreprises-là, quoi qu'on dise, ne communiquent pas assez. Et nos gouvernants aussi n'ont pas toujours le réflexe de communiquer. Pas de manière volontaire, mais souvent c'est de manière involontaire. Donc il est difficile souvent aux journalistes qui recherchent les informations sur les activités commerciales des entreprises, c'est difficile d'en trouver. Donc l'information est souvent cachée quelque part ou on refuse complètement de donner l'information. Donc les journalistes doivent relever ce défaut d'accès à l'information et aussi pour certains pays africains, relever aussi la question de la liberté d'expression. Parce que sur la base des témoignages des uns et des autres, les pays aujourd'hui où le fait du journalisme est devenu quand même un métier risqué. Après avoir relevé toutes ces techniques, c'est aussi respecter les règles et d'éthique que le métier s'est imposé pour pouvoir collecter les informations, les traiter et suivant peut-être des outils comme l'investigation, le data journalisme, le fact-checking pour arriver vraiment à révéler à la face du monde et aux citoyens ce qui ne va pas et pourquoi le pays doit mieux lutter contre ces petites pertes d'argent, ce manque à gagner là, au lieu de passer le temps à s'endetter.
Vous avez parlé aussi du service de la dette qui a un taux de pourcentage dans la déclaration qui sont certainement fausses parce que les gens voudront faire du profit sur le dos du citoyen lambda. Alors, est-ce que vous pouvez revenir dessus au l'état des lieux au niveau des pays africains?
Quand on regarde le niveau d'endettement de l'Afrique, c'est un niveau d'endettement qui est très élevé. Au niveau du service de la dette, chaque pays a une ligne budgétaire dans son budget de dépenses pour rembourser une bonne partie de la dette. En fait, ce n'est pas le chiffre qui fait plus mal, c'est ce à quoi cet argent a servi qui fait le plus mal. Par moment, on rembourse la même dette deux fois. Parce qu'on ne l'a pas investi, on oublie d'aller s'endetter encore, ou bien on l'a mal investi. Et aujourd'hui, vous voyez, dans les pays de l'Israël, sont confrontés aux questions terroristes. Une bonne partie des ressources internes sont consacrées à ces priorités de l'heure, c'est-à-dire faire la guerre au terrorisme, faire face aux questions humanitaires, faire face à la réinstallation des populations et de l'administration. Il y a des nouveaux défis qui se posent. Et on a eu aussi Covid, qui a mis à genoux quand même certaines économies et qui a encouragé les pays à aller vers un certain type d'endettement. Donc ici, ce que le journaliste doit regarder, c'est à quoi a servi cet argent? Qui a donné quoi? Qui allait négocier? Est-ce que cet argent a créé de la valeur ajoutée sur ce pays? Si on prend une dette et pas on part construire une route dans une localité qui n'en a pas besoin, alors qu'ailleurs, on a besoin d'une route pour évacuer par exemple des produits agricoles, le cacao, le café, vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Quand on prend une dette et puis on pense construire un stade où il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de compétition, ça pose un problème. Quand on prend une dette et puis on part construire une université où il n'y a aucun étudiant et l'infrastructure est habitée par les herbes et puis les animaux, il y a un problème. Donc il faut que cette dette-là aussi soit équitablement répartie en fonction des coûts sociaux et en fonction des secteurs économiques pour vraiment amorcer un développement harmonisé et durable pour tous les pays. Donc ici, c'est à quoi sert la dette qui doit être la préoccupation des journalistes.
Merci beaucoup, Eli Kabore.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, à l'instant, l'invité de la rédaction, le journaliste burkinabé, directeur de publication de Mine Actu Burkina. Site web d'information minière du Burkina Faso et du monde, Eli Kabore, interrogé par Jean-Mélène Biti. C'est ce qui met fin à ce journal, le rappel de ses titres. Après une grâce présidentielle, la personne libérée est libre de toute action. Ceci, elle est sous contrôle judiciaire, estime le juriste politologue Geoffroy Julien Kouaou. Agression d'une professeure d'EPS mardi dernier au lycée moderne de Cocody par un élève du terminal. Le secrétaire général de la FESI condamne fermement l'acte. Au Sénégal, la Sénat, entendue par la Commission électorale nationale autonome, dit avoir pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de l'élection présidentielle du dimanche prochain. Les infos, c'est aussi la revue de presse de ce vendredi avec Jean-Mylène Bitti à suivre maintenant.
Bonjour à tous. Le tête-à-tête entre le président Ouattara et Emmanuel Macron se jouera à l'Élysée. À ce propos, l'Inter revient sur les sujets qui seront débattus par les deux présidents, à savoir la situation sous-régionale, à commencer par le Niger, avec la situation de